3-2. Non, Karabag, pardon, Karabag, 3-2.
Un club d'Azerbaïdjan.
D'Azerbaïdjan, ouais. Donc ils sont plus derniers.
D'accord, bah tu me l'apprends parce que je ne l'avais pas vu.
Allez, ce que je te propose, c'est de faire une pause musicale.
Allez.
Et de revenir dans 3 minutes pour la deuxième heure. Donc on parlera des autres sports que le foot. Ça sera l'heure de Top Club. Mais avant, petite pause musicale. À tout de suite sur Fadjet.
Sunshine and rain, some things don't change. Thinking about the days we were young, girl. Innocent in our ways, we were dumb, girl. When nothing really mattered, I could always count on you. Your touch will leave me breathless. Let me give it.
Aussi un grand plaisir de retrouver Top Club et son générique tout en dance floor. Et après d'ailleurs un petit son dance floor aussi, HMH, DJ HMH. Voilà, si vous connaissiez pas, c'était HMH juste avant sur Fadjet, DJ Vosgien apparemment. Donc voilà, on fait de la pub locale. Alors, donc c'est l'heure de Top Club, la deuxième heure de sport sur Fadjet du lundi soir. Après, on a que ça à foutre, on va parler des autres sports. Et sans plus attendre, mon cher Guillaume, tu as plus ou moins spoilé, entre guillemets, dans la première heure, ce dont nous allions parler, c'est-à-dire du SLUC, pour ouvrir l'émission. On a ouvert avec une victoire de la SNL. fait rare, et ben on va ouvrir fait encore plus rare. Alors pas d'une victoire du Schluck, parce que c'est pas plus rare que la SNL, mais d'une victoire de la SNL et du Schluck le même week-end. Puisque de fait, c'est logique, si c'est rare une victoire de la SNL, c'est encore plus rare que les deux gagnent, puisqu'il faut qu'en plus de la SNL, le Schluck gagne. Et là en plus, c'était pas gagné puisqu'il jouait le Paris Basket. Et donc, tu y étais, donc je vais te laisser en parler mieux que moi. Mais le Schluck, donc l'équipe de Nancy, les Cougars, comme ça qu'on dit, ont battu Paris.
Un match plein. Tout était réuni pour qu'on gagne, en fait. On a maîtrisé de bout en bout, même si Paris a été devant par moment. Mais dans l'agressivité, niveau défensif, au scoring, on a vraiment répondu présent. Il n'y a pas un joueur qui a été en dessous de l'autre. Et contrairement au match qu'on avait pu perdre contre Strasbourg, contre, j'arrive plus à retrouver, Le Mans, où on loupe le premier carton. Tout de suite, on a été dedans. Premier tiers, 3 points. Landers-Nollet, c'était le duel. Hein. Landers-Nollet contre Nadir Rifi. Et Landers-Nollet, premier tiers, 3 points. Donc ça a tout de suite mis dans l'ambiance. Et puis des joueurs à droit. Enfin, franchement, cette année, on en parlait la première émission où j'étais venu. Je t'avais dit que c'était une équipe super homogène. Et ben, ça s'est vérifié encore sur la table de marque. Puisque je crois qu'il y a eu 4 joueurs au-dessus de 10 points pour Nancy. Donc, je vais peut-être prendre la feuille de match sous les yeux parce que je la connais plus par cœur. Mais voilà, comme je te l'avais dit, ça confirme ce que je te disais au début de saison. C'est une équipe homogène qui peut, je pense, viser vraiment les playoffs pour la fin de saison. Je dis pas ça, j'ai pas envie de dire ça parce qu'on a gagné contre Paris, j'ai pas envie de m'enflammer. Mais au niveau de l'équipe et de l'effectif, je pense qu'on peut vraiment rêver cette année de participer aux playoffs, et ça serait pas mal aussi de faire la Leaders Cup qui réunit les 8 meilleures équipes du début de saison. Donc il reste encore un match là à Dijon à l'extérieur, ensuite on est un dernier match à domicile, donc ça sera Nanterre le 23 décembre si je dis pas de bêtises à 4h30.
Donc, alors, 16h30, hein. 16h30. 4h30, ça fait un peu
ouais,
tôt. C'est un horaire pour les supporters, un horaire pour les téléspectateurs australiens et néo-zélandais.
C'est ça. mais voilà, le match contre Dijon qui est en plus dans les derniers du championnat. Donc ça serait pas mal d'aller gagner là-bas. Après, on sait que c'est compliqué d'aller jouer à Dijon. Et enfin, Nanterre qui est quatrième du championnat. Donc bon, tu dis que si on met les mêmes ingrédients que contre Paris, on peut peut-être faire un bon match et pourquoi pas s'installer vraiment dans le top 8. Je suis en train de regarder pour les stats du match. Donc 20 points pour Landers-Nollet, 19 points pour Fleming, 15 points pour Gombo, 14 pour Goudou Signa. Et puis après on a Marcillon Noléo qui a 9 points. Donc ouais, 4 joueurs qui étaient vraiment au-dessus de 10 points. Et j'en ai pas encore parlé. McDuffie qui est arrivé dernièrement pour remplacer Yat, hein, pour blessure. Nancy, ils ont eu le nez cru. Hein. Je pense qu'ils ont été chercher le joueur au bon moment. Parce que c'est un joueur qui apporte énormément. Et Eric Deller, l'entraîneur de Chalon, là, je ne sais plus comment il a sorti ça, mais en gros, il a sorti qu'il n'y avait que des pipes sur le marché des joueurs libres. Hein. Il a dit qu'il n'y avait que des pipes. Et je pense que celui-là, il allait le choper avant que. Sinon, on ne l'avait pas pris, tu vois.
Okay.
Donc, je pense que c'est un peu dommage que Yat il se blesse. Hein. Franchement, c'est assez triste pour lui. Mais je pense qu'avec la blessure de Yat, on a récupéré un bon élément.
Puis quand Yat reviendra, il y aura les deux.
Ouais, voilà.
C'est ça. Nancy, 9e. 6 victoires, 5 défaites. Donc 9e, enfin égalité. Le Mans, Nancy et Cholet sont 9-10 avec 6-5. Donc un bilan positif.
C'est ça. Et puis, des fois, tu as envie de dire il faut regarder en bas. Mais là,
c'est-à-dire Limoges, Dijon, Boulazac, 51, Gravelines et Le Portel. J'ai tout dit. Hein, tu vois, j'ai été complet. Non, en fait, il y a un trou. C'est ça qui vient. C'est que Le Portel est à 1-10.
Ouais.
Donc, alors, quand je dis 1-10, une victoire à 10 défaites. Je précise aux auditeurs. Gravelines-Dunkerque et Saint-Quentin sont à 2-9. Boulazac, 3-8. Dijon et Limoges, 4-7. Et donc, tu te retrouves à Cholet, Nancy, Le Mans, 6-5. Donc, 2 matchs de marge.
C'est ça.
Ce qui est intéressant. C'est une marge, sécurité. Et en plus, c'est vraiment le play-in minimum, quoi, entre guillemets. Là, alors, évidemment, on est qu'à 11 journées sur 30. Ouais. Ah, c'est ça, il y en a 30. Hein. 15 fois 2.
Bah oui, 15 fois 2. Ouais.
Donc, on est au tiers, on va dire. On n'est pas encore à la moitié en basket. On va dire qu'on est un peu plus que le tiers. Donc, rien n'est fait. Mais à date, au jour d'aujourd'hui, le play-in semble minima assuré. Et puis après, si on regarde au-dessus, à 7-4, donc c'est-à-dire à une seule victoire, on a Chalon, Strasbourg, Ebourg en Bresse, qui sont donc 5, 6 et 7. Donc en fait, tu peux être 10e, comme tu peux être finalement dans un monde parfait 5e.
Ouais,
derrière, entre guillemets, les 3 équipes d'Euroleague, Monaco, Paris et Lyon, et pour l'instant Nanterre, qui est quatrième à 8-3. Nanterre à 8-3, qui a le même bilan que l'Asvel, Lyon, Villeurbanne, Paris, donc qui était co-leader et qui ne l'est plus à cause de Nancy ou grâce à Nancy. Et Monaco qui est à 9-2, en sachant qu'il y a une victoire de pénalité, je crois, pour Monaco. En
oui,
plus,
donc
ils sont à 9-2 dans les faits, mais à 8-3. Finalement.
Donc c'est quand même, bon, c'est un peu dommage parce qu'on a eu la défaite à Strasbourg et puis contre Gravelines qu'on.
Ouais, mais après c'est comme tout, t'as aussi des victoires que t'arraches.
C'est ça.
T'as des voilà.
Mais bon là, 6 victoires, 4 victoires d'avance sur le 15e. Et puis comme l'a dit Lautier, pour reprendre aussi ses mots, il y a l'équipe qui commence à prendre en maturité. Là tu sens que l'équipe elle monte en puissance quoi. Et enfin il y a un moment on avait 15 points d'avance hein, sur Paris. Hein. On a 4 points d'avance à un moment à la fin, toute fin du match. Tu dis ouïaïaïe, on a fait tout le match quasiment devant. Tu dis perte de balle en plus, hein, c'est une mauvaise passe. Perte de balle, tu dis ouais, ça y est, Paris vont nous terminer. Il restait 2 minutes, je crois. Et au final, et non, ils sont restés sereins. Et franchement, c'est fort. Très très fort.
Et ben bravo au Sluc, qui, on l'a dit lors de la première émission de la précédente, je ne sais plus, n'est plus en coupe, mais. C'est peut-être un mal pour un bien dans cette saison-là.
Ouais, c'est vrai. Bah, c'était la première émission, je crois.
Grosse ambiance.
Ouais.
Je sais pas si t'entends, c'est dans le studio à côté. Ils sont en train d'enregistrer, pour être tout à fait honnête avec l'auditeur, l'émission du Nouvel An.
D'accord.
Donc, grosse ambiance.
Très surprenant.
voilà, c'est peut-être le moment où c'est bonne année, je sais pas.
Ah oui.
Spoiler, ce ne sera pas en direct le 31 décembre.
je savais pas si c'était dans le casque que j'entendais. Mais
non, okay. Non, c'est dans le studio d'à côté. Parce qu'en fait, il y a deux studios. Donc, on est dans le studio direct et le studio d'enregistrement.
Okay. D'accord. Okay.
Voilà. Donc là, si par exemple, un jour, je sais pas, hein, si par exemple, un jour, on reçoit des joueurs du Sluc qui peuvent pas venir en direct, et ben on enregistrerait l'émission dans le studio d'à côté. Voilà.
Ok.
Tu sauras.
Ça marche.
puisque tu es une recrue, donc tu n'as pas encore eu l'occasion de diffuser le studio d'enregistrement. D'ailleurs, tu as de la chance, puisqu'en tant que recrue dans une émission établie à Fadjet, les émissions Rookie, les émissions débutantes débutent en enregistrement. Les émissions avant de passer en direct, il faut qu'elles fassent leurs preuves. Mais toi, comme tu arrives dans une émission qui a 10 ans d'âge, tu arrives dans une émission en direct. Ah bah oui, on ne fait pas de baptême du feu en direct, normalement. Et toi, si.
C'est qu'on me fait confiance alors.
Voilà, c'est ça. Alors, on me fait confiance à moi sur mon recrutement.
C'est ça. T'as la main mise sur
le recrutement. Voilà, et donc on m'a dit on fait confiance à ton recrutement. Pas de test, pas de. Non, alors dans le milieu, c'est, tu sais, le fameux. Comment les pilotes. Les émissions pilotes.
Okay.
Pas de pilote. Direct en direct. Voilà. Écoute. Voilà, non, mais c'était pour revenir sur le Sluc lors de ce premier quart d'heure, parce que c'est toujours important de parler du sport local. Mmh. Puis, comme j'aime bien à le dire, les médias parlent souvent énormément, et je dis pas que c'est à tort, hein, mais de la NBA. Mmh. Je dis pas que c'est à tort, mais c'est vrai que le basket européen et français sont peut-être un peu moins médiatisés.
Non, mais c'est vrai, parce que tu vois. Je veux dire, le championnat est quand même suivi pas mal par l'équipe. Et tu vois, dans le journal de l'équipe, je lisais ce matin, dimanche, là, bah, il y a quasiment pas. T'as juste le résultat et le classement. Il n'y a même pas de page sur l'exploit.
Non, mais c'est ça.
Mais d'ailleurs, par contre, c'est très bien, Bibasket sur Facebook. Ils n'ont pas sorti Nancy a créé l'expo, je ne sais plus quoi. Enfin, ils ont mis en valeur la victoire de Nancy avant tout, tu vois.
Et pas la défaite de Paris.
Exactement.
Bah, après, si c'était Nancy a créé l'expo, ça va.
Ouais,
plus écrit défaite exactement. Surprenante de la SNL, pas de la SNL,
de Paris Basket. Ouais, ouais. Bah ça, ils ont pas mis ça, là, franchement. Là.
Paris Basket, qui est un des clubs qui résiste encore au Qatar, c'est-à-dire que le foot est passé PSG, le handball est passé PSG, peut-être qu'un jour le basket, je sais pas, si c'est dans les
ambitions. Pourquoi la page basket, par contre, je pense que Paris, ils ont perdu gros avec TG Short, qui est parti en Grèce, là. Et tu vois, le rôle, il est donné à Nadir Rifi, mais c'est pas pareil. C'est juste pour clore... La page basket.
Et puis d'ailleurs, ils ont un coach de Paris, Isalo et.
Ouais, il est parti à Memphis.
Les deux sont en NBA.
Ouais, c'est ça. Il y en a un qui est parti à Memphis et l'autre, il est parti je ne sais plus où. Un ancien joueur des Spurs, Splitter.
Oui, c'est ça, Splitter, Thiago Splitter. Mais d'ailleurs, il était numéro 2, mais il est passé numéro 1 parce que le coach numéro 1 a des problèmes de Paris.
Je ne sais plus où c'est exactement.
Je ne sais plus où c'est, mais bon, bref. Ouais. Voilà, donc bravo le Sluc. Et comme la SNL, un week-end où nos deux équipes du coin gagnent, on est toujours contents. Quoi.
Exactement, là on a le smile quand tu commences la semaine.
à deux doigts de balancer un We Are The Champion. Quoi.
Ah, c'est...
Ça, je l'ai dans les réserves. Ah bah écoute, on est émission sportive, on a toujours quelques jingles prêts à l'emploi. Tu vois, par exemple, j'y suis là aussi. tu vois, que j'aurais pu mettre pour féliciter la SNL aussi. C'est vrai que je l'ai pas mis, mais tu vois, on a nos musiques en stock. Hein.
Ouais, je sais.
Voilà. Voilà, bah, tu sauras. J'ai I Will Survive, la samba. Je vais pas tous les faire. J'avais mis la samba la dernière fois.
Ah,
mais,
oui,
voilà. Mais voilà, si tu veux un jingle, n'hésite pas. Voilà. Et j'ai aussi le jingle négatif. Hein. Comment ça s'appelle? Tu sais, la marche funèbre. Enfin voilà, jamais on venait à descendre pour plomber l'ambiance. Ah non, mais on a ce qu'il faut à Fadjet en jingle. Hein. On reste pro.
Voilà. Quand même pas, j'espère.
Tu sauras. Non, alors avant de parler, parce que ça nous tient à cœur à tous les deux, particulièrement moi, mais je sais à toi aussi, des sports d'hiver dans la deuxième partie d'émission, parce que nos Français ont brillé, nos Vosgiens ont brillé. Voilà, Vosgiens, Vosgiennes, Français, Françaises. un petit mot quand même, parce qu'on avait dit qu'on en reparlerait, et puis bah, là c'est fini, donc c'est l'occasion jamais d'en reparler. Ouais. Sur deux choses. Alors avant, juste après, on parlera de la Formule 1, parce qu'on n'a pas fait d'émission la semaine dernière, donc mais le championnat c'est pas clôturé, c'est quand même le week-end d'avant. On va pas faire... On va pas s'éterniser hein, parce qu'il s'est pas passé grand surprise, c'est-à-dire que Verstappen a gagné mais il n'a pas refait son retard et Lando Norris est champion du monde.
Oui.
Rien à dire de plus.
Pour deux points d'avance.
Oui, c'est ça, deux points d'avance. Mais rien à dire de plus, pas de surprise.
Rien à dire de plus.
Ils ont failli perdre un titre imperdable mais ils l'ont quand même gagné.
Comme je t'avais annoncé, il n'y aurait pas d'écurie qui l'aurait inquiété pour le podium, donc il a assuré le minimum. Voilà.
C'est ça. Il n'y a même pas eu besoin de l'aide de Piastri qui a fait deuxième derrière Verstappen.
Et, ouais, c'est ça.
Et surtout, pas forcément surtout, mais et aussi, puisque là c'est plus dans l'actu, ça s'est clôturé ce week-end là pour le coup. Nos compatriotes du Dan Balus, voilà.
Ouais, c'est ça.
Qui n'ont pas gagné le championnat du monde, mais qui sont repartis qu'une belle petite médaille de bronze. Alors là où c'est quand même pas mal, c'est que l'année dernière, au championnat d'Europe, elle perd en demi et elle s'écroule en petite finale. Elle repart quatrième, bredouille. La médaille en chocolat. Je vais dire à la place du con, mais on va plutôt dire à la radio la médaille en chocolat. Cette année, 5, je sais pas si t'as vu, 5 titulières sur 7 absentes, sur blessure et ou maternité. Donc 5 sur 7, c'est quand même
plus un changement de sélectionneur.
Un pourcentage non négligeable, voilà. Et tu vas quand même arracher le bronze, en sachant qu'en plus, j'avais vu, je sais plus qui dire, alors là, c'était une déclaration d'un basketteur ou d'un handballeur, je sais plus, après une petite finale gagnée. Il y a quelques années, alors je sais plus si c'était le handball ou le basket, mais c'était les garçons. Mais bref, qui disait, c'est finalement pas plus mal. Bon, évidemment, on veut tous l'or, mais ça fait beaucoup plus de bien dans les têtes et pour la suite de finir sur une victoire en petite finale que sur une défaite en finale.
Ouais.
Et vu que, puisqu'en gros, pour recontextualiser, les Français se perdent en demi-finale contre l'Allemagne, mais en finale, l'Allemagne, sans surprise, perd contre l'immense, immense, immense favorite norvégienne
qui fait le triplé.
Qui sont sur 5 titres de championne du monde, qui sont donc là, en effet, en un an, championne olympique, championne d'Europe, championne du monde. Enfin, voilà, c'est vraiment l'équipe de handball qui est au-dessus, un peu comme les Bleus chez les garçons à l'époque. Et maintenant, la France est plus aussi dominante qu'à une époque, mais à une époque, voilà, c'était vraiment la France ou la Nouvelle-Zélande en rugby, enfin, je sais pas, mais une équipe hyper dominante. Donc en fait, n'est-ce pas mieux de finir sur une victoire en petite finale que sur un massacre en finale entre guillemets, surtout qu'en plus la France bat en petite finale les Pays-Bas chez elle, et Pays-Bas qui les avait battus en poule au dernier match de poule, donc petite revanche en plus.
Ouais, puis tu vois, vaut mieux. Je suis plutôt satisfait aussi de la troisième place, finir que sur une victoire comme tu l'as dit.
Ouais, puis tu repars pas de rue, tu fais médaille, tu finis sur victoire, tu fais médaille.
Il te manque 5 ou 6 titulaires, t'as un nouveau sélectionneur qui est là à la place de Krumbholz.
Qui est une légende.
C'est une légende.
Évident à remplacer, ouais.
Et bon, à la limite, je suis plus satisfait.
Et puis surtout, tu progresses, puisque l'année dernière, en championnat d'Europe, tu fais 4.
C'est ça.
Donc tu progresses.
Ouais. Et tu vois, je suis plus satisfait de cette troisième place-là que la finale qu'on perd au JO l'an dernier où on prend
une rouste.
Une raclée, quoi. Ouais.
Voilà. Bah, c'est ça, c'est ce que je te dis. Tu vois, là où, par exemple, la finale de basket féminin, tu te dis, on va se faire rouler dessus par les Américaines. Je parle des filles.
Ouais.
Et en fait, non. Tu perds limite au buzzer.
Ouais.
donc tu t'es deg, mais t'es fier. c'est vrai que la finale de hand féminin, alors le handball entre les garçons éliminé pathétiquement sur une perte de balles, je sais pas si tu te souviens, aberrante. Et les filles qui vont en finale, c'est très bien, mais ils se font marcher dessus. C'est vrai que le handball qui nous a tant fait rêver, disons qu'au JO de Paris, c'est pas un échec parce que. Tu fais une médaille, c'est pas un échec, mais par rapport au basket ou même au volley, où nos volleyeurs qu'on annonçait clairement sur le déclin fini, qui vont garder leur titre olympique dans une dinguerie de, d'ambiance phénoménale. Non, mais enfin, voilà, c'est vrai que voilà, les JO de Paris, c'était top. Hein, mais
c'est pas parce que c'était en France.
On a un petit pincement au cœur, c'était top quand même. Et on espère franchement que les JO de Milan qui arrivent là seront top aussi.
Ah, oui, ouais. Ça va faire du bien.
C'est des JO, des JO sans décalage horaire, les gars.
Ouais, c'est ça. Et puis dans un seul pays, quoi.
Ouais, et puis dans un pays qui a vraiment de l'année. Pas à Pékin au milieu du. Rappelle-toi, Tesla 2 qui va devenir vice-champion olympique, le Guerre était dans une centrale électrique. Je sais pas si tu te souviens, centrale nucléaire, images horribles. Oui. Là, t'auras la montagne derrière, des vrais paysages alpins.
Même le ski de descente et tout, c'était n'importe quoi.
Voilà. Puis le biathlon et le ski de fond, pas un spectateur. Si, je sais pas si tu te souviens, bon, c'était triste.
Quoi, il y a encore des Russes.
En Tols, ça va être beau. Ouais. Donc on a le temps d'en reparler. C'est dans 2 mois, hein, ça vient vite, hein, les Jeux d'hiver.
Après les vacances, ça va être enchaîné.
Voilà. On va parler du sport d'hiver là, dans la dernière demi-heure. Il nous reste juste 10 minutes. On a parlé du SLUC, on a parlé des handballeuses de la Formule 1. On va juste dire un truc aussi, parce que on va être complet sur le tour de l'actu sport, donc je vais le faire. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, je vais pas faire semblant d'être un expert, donc je vais me donner les résultats parce que c'est important. Juste, il y a la Coupe d'Europe de rugby qui a commencé le week-end précédent, donc ça fait 2 journées. Je vais juste donner les résultats, alors pas les résultats détaillés des clubs français, mais juste te dire où ils en sont dans leur groupe.
Je crois que ce week-end, ça n'a pas été un bon week-end pour les clubs français.
Non, j'ai vu beaucoup de défaites. Même Toulouse, j'ai vu notre grand Toulouse qui menait 21-0 à la mi-temps, qui a perdu 28-21.
Bah, ils ont eu chacun leur mi-temps.
Donc ça veut dire que. Ah ouais, mais là. Alors, on peut avoir, tu sais, l'expression avoir chacun sa mi-temps, mais là, c'est radical. C'est-à-dire 21-0, 0-28.
Ouais. Non, mais puis il y a des autres clubs français qui.
C'est-à-dire qu'ils ont changé de maillot à la mi-temps, les mecs.
c'est ça. Mais je sais plus quel club français qui est bien plus.
Bayonne en a pris une belle. Pau en a pris une belle. Bayonne, même La Rochelle en a pris une belle.
Perpignan également.
Après Perpignan, ils sont largués en championnat. C'est vrai que. Bah écoute, tu sais quoi, je vais donner le classement. Donc alors, Coupe d'Europe de rugby un peu particulier, le nouveau format depuis l'an dernier avec les clubs sud-africains, on le rappelle. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, on a 4 poules et faut être dans le top 4 sur 6, puisque 4 x 4, 16 et tu te retrouves en 8e. Pas besoin d'être un expert mathématique.
Exactement.
Donc une poule de 6, les 4 premiers, c'est plus simple, on va dire, qu'autre chose de se qualifier. Mais en rugby, vaut mieux quand même être dans le top 2, parce que du coup, ça te donne les 8e de finale à domicile. Et on sait que en rugby, encore plus qu'en foot, c'est très. Parce que c'est des matchs secs, c'est pas des matchs aller-retour. C'est très important d'être à domicile. Si t'es premier, ça t'assure le 8e et le quart à domicile. Et si t'es deuxième, ça t'assure au moins le 8e à domicile. Ouais. Si t'es 3 et 4, tu vas jouer tout ton parcours à l'extérieur. Donc c'est pas l'idéal. Donc on sait que les clubs français sont bien pourvus, hein, puisque sur les 6 poules de 4, 24, sur les 24 équipes, je crois qu'il y a 7 ou 8, on va bien voir, mais club du top 14, donc je crois que c'est 8. Je crois que c'est les 8 premiers du top 14 qui se qualifient en Champions Cup et les 6 suivants dans la deuxième Coupe d'Europe. C'est-à-dire que tout club français est en Coupe d'Europe.
Ouais. Ils sont vraiment les 14, je crois.
Donc dans la poule 1, pour l'instant Toulouse n'est que 3e. Derrière Glasgow, Glasgow et les Saracens, les Anglais, et Sale, donc des autres Anglais, sont 4e. Et pour l'instant, les deux équipes éliminées, ce sont les Sharks, donc une équipe sud-africaine, et Clermont, qui est à 2 défaites. Clermont, ils ont perdu 47-10 contre les Saracens et 35-14 à domicile contre Sale. Donc pour l'instant, voilà, Clermont, c'est délicat. Et Toulouse, c'est une victoire, une défaite. Toulouse a battu les Sharks, donc les Sud-Africains, hein, 56-19, avant donc de perdre, on l'a dit, 28-21 contre Glasgow. Donc pour l'instant, Toulouse qualifié, mais 3e, et Clermont éliminé. Dans le groupe 2, on a donc Castres, qui est pour l'instant 2e, donc c'est pas mal, et Toulon, ok, 4e. Donc c'est coup-ci, coup-ça. On a dans cette poule BAF.
Toulon qui a gagné à l'arrache contre eux, ouais.
Donc BAF, je prononce mal, mais qui est leader. Castres qui est donc 2e avec une défaite, une victoire. Défaite 34-14 à Gloucester, un club irlandais. Et ensuite, donc cette victoire 33-0 contre Édimbourg. Pas contre BAF, contre Édimbourg. Voilà, donc Munster qui est irlandais, qui est 3e. Toulon, donc 4e. Donc Toulon, défaite à Édimbourg, 33-20. Et victoire face à BAF, donc tu l'as dit, 45-34. Et donc pour l'instant, les deux derniers, c'est Gloucester et Édimbourg. Dans le groupe 3, en tête, c'est les Stormers, donc une équipe sud-africaine la meilleure équipe sud-africaine, hein, qui est vraiment dominante. En deuxième, le Leinster, donc grosse équipe européenne irlandaise. En troisième, les Harlequins, les Anglais. Et La Rochelle n'est que 4e pour l'instant. La Rochelle qui a gagné la Coupe d'Europe, il y a 2 ans. Deux fois de suite, même ils ont gagné en 2023 et 2024. Cette année, c'est Bordeaux.
Ouais, Bordeaux, c'est ça.
Les deux années d'avant, c'était La Rochelle. Ouais. Donc La Rochelle qui avait gagné d'abord contre Leicester en Angleterre, parce qu'il y a le Leinster en Irlande et la Leinster en Angleterre. Ils avaient gagné 39-20 et là ils ont perdu chez les Stormers 42-21. Voilà, et donc les deux derniers de cette groupe, c'est donc Leinster 5e et Bayonne qui est 6e, bon dernier. Et Bayonne,
ah bah c'est eux qui ont pris
Bayonne, ils ont pris 68-14 voilà, c'est ça, contre les Harlequins, ouais. Et ils ont pris 26-17 à domicile contre les Stormers. Donc voilà, et enfin le dernier groupe, donc Northampton est leader, les Anglais devant Bordeaux. Pour l'instant, Bordeaux c'est vraiment la seule équipe à deux victoires, la seule équipe française qui fait le taf, puisque Bordeaux a battu les Bulls, donc les Sud-Africains, 46-33, et les Scarlets, donc c'est des Gallois, les Scarlets, 50-21. Donc voilà, et ensuite on a Bristol en Angleterre qui est 3e, les Scarlets 4e, les Bulls donc 5e, et Pau 6e et dernier avec 0 point, 2 défaites. Ils ont perdu 35-27 à domicile contre Northampton et 61-12 contre Bristol. Donc pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, Clermont est dernier et éliminé, Bayonne est dernier et éliminé, Pau est dernier et éliminé, donc là c'est 3 équipes éliminées. Et pour l'instant qualifié, Toulouse en 3e place, Castres en 2e place, Toulon en 4e place, donc attention, Toulon c'est à l'arrache, et La Rochelle aussi en 4e place et Bordeaux 2e. Donc pour l'instant, on va dire mention bien à Bordeaux, en vrai, hein, mention bien à Bordeaux et Castres, mention moyen à Toulouse, ils vont se qualifier mais on attendait mieux, moyen donc pour Toulouse, Toulon et La Rochelle, et puis bah, mention ratée, mauvais pour Pau, Bayonne et Clermont.
Voilà, pour ils sont 3e en plus, donc oui, c'est une déception.
Voilà pour alors après on sait qu'il y a des clubs qui la jouent pas à fond, qui font tourner, enfin c'est compliqué, mais c'est pas très comparable avec le foot. Si vous comparez, enfin je veux dire, le foot, t'es en Ligue des Champions, tu la joues à fond. La Champions Cup pas forcément nécessaire, puisqu'on rappelle que pareil en top 14 on n'en parle jamais, mais si on parle du top 14 là, j'ai le classement sous les yeux, après donc 11 journées hein, donc on est en top 14 puisqu'il y a 14 équipes, la trêve c'est à 13 journées, donc on est à 2 matchs de la trêve. Pour l'instant c'est Toulouse qui est en tête devant Pau. Voilà, donc Pau qui est deuxième, et en troisième c'est Toulon, quatrième c'est le Stade Français, cinquième Bayonne et sixième Bordeaux, hein, Bordeaux qui est que sixième entre guillemets. Et après ensuite on a Montpellier 7e, Castres 8e, Clermont 9e, La Rochelle 10e, le Racing 11e, Lyon 12e, et on a les deux derniers qui sont très très largués hein, pour le coup, puisque Lyon qui est 12e à 23 points et Montauban qui est avant-dernier à 7 points.
Montauban qui est promu, je crois.
Voilà, et Perpignan n'a que 1 point. Voilà, donc ce qui est rare en rugby quand même, bah en fait c'est simple, hein, Perpignan a que des défaites, que des défaites, le point c'est un point de bonus.
Ah bah,
c'est même pas une victoire. Puisqu'en rugby, je rappelle, victoire 4 points, avec le bonus 5 points, et pareil, défaite, 20, match nul 2 points, et donc défaite 0 points et 1 point si tu prends un bonus. Donc on peut dire que Perpignan va descendre quasi avec certitude malheureusement, et que Montauban sera sans doute barragiste. Voilà.
C'est ça.
Voilà pour faire le tour du rugby, on n'en parle pas toujours, mais bon, là, vu qu'il y avait la Coupe d'Europe, c'est l'occasion.
Ouais, c'est
vrai. Mais vu qu'on est en Coupe d'Europe multi-tenant du titre, on tenait à le dire, hein, puisque je revérifie, mais il me semble bien quand même qu'on est quadruple tenant du titre, puisque en 2025, voilà, c'est ça, hein, donc Bordeaux, on l'a dit d'ailleurs, Bordeaux qui avait battu Northampton en finale, les Anglais, 28-20, Bordeaux qui avait battu Toulouse en demi-finale, je me souviens, c'était le gros exploit, et les deux années d'avant, il me semble, hein, j'ai dit que c'était La Rochelle, je vais quand même vérifier. Toulouse.
Ouais, il me semble que Toulouse en avait gagné une
récemment. En 2024, oui. T'as raison, et La Rochelle en 2023 et 2022. Donc La Rochelle avait bien gagné deux fois de suite, mais c'était pas en 2024, c'était en 2023 et 2022.
Ça passe vite.
Donc on est bien quadruple tenant du titre quand même.
Ouais.
Et même quintuple, puisque c'était Toulouse en 2021. Donc attends, je vais continuer à remonter. Non, voilà, c'était Exeter. Alors voilà, en 2020, Exeter, donc les Anglais qui avaient battu le Racing en finale. Donc on est quintuple tenant le titre. Deux fois Toulouse, deux fois La Rochelle, une fois Bordeaux.
C'est beau.
Donc cette année, on a un peu plus de mal, ce qui est pas notre surprise. Mais bon, pour l'instant, les Sud-Africains n'ont pas encore gagné la Coupe d'Europe. Et peut-être que ça fera bizarre de le dire quand ça arrivera. Alors après, soit dit en passant, au-delà des prises de position écologistes notamment, sportivement pour eux c'est bien, parce qu'en fait si tu veux, les Argentins, les Néo-Zélandais, les Australiens font leur coupe entre eux, et en fait c'est vrai que les Sud-Africains, ça leur permet entre guillemets d'avoir une compétition intranationale, extra-nationale, du coup, pardon, parce que sinon ils ont que leur championnat, quoi, parce que si tu fais une coupe d'Afrique, bon, les clubs sud-africains ils rouleraient sur tout le monde. Donc c'est pour ça aussi, c'est pour un intérêt sportif, voilà, mais bon, c'est sûr que au tirage au sort, les clubs, quand ils évitent le déplacement en Afrique du Sud, ils sont contents. Quoi. Parce que vu que c'est pas des matchs aller-retour, si tu tombes dans la poule d'un Sud-Africain, tu pries pour que ce soit le match à domicile.
Ah ouais, c'est clair. C'est énorme.
Surtout quand t'as un championnat comme le top 14, qui est hyper concurrentiel, hyper énergivore. Bon, si tu tapes un aller-retour en Afrique du Sud au milieu, bon.
Ouais, c'est pas cool.
C'est pas cool. Bon, ça fait un peu de soleil, mais.
Ouais, c'est vrai.
Et voilà. Bon, alors, il est l'heure Talam, est-ce que j'ai pas une petite musique de parler de...
Un petit coup de bâton, non? Un petit coup de bâton dans la neige, non?
Ah oui, ah non, non, mais j'ai... je pourrais mettre... là, pour le coup, pour notre Bresso de Léonie Perry, je pourrais mettre Travel Survive. Hein.
Ouais, tu pourrais mettre ça. Et tu pourrais mettre la sonnerie aux morts pour Clément Noël, qui nous a encore déçus.
Alors, c'est quoi, c'est bien... On va commencer par ça. On va commencer par la déception avant de commencer par le bonheur. Ski Alpin... En plus, c'était à Val d'Isère ce week-end. Alors, ce qui est alpin, il n'y a pas que du négatif.
Ah oui,
parce que chez les filles, donc c'était à Saint-Moritz en Suisse.
Oui.
Alors déjà, il y avait descente Super G, descente Lynn Seven.
Oui.
Quand même, faut le dire.
Ça, c'est beau.
Incroyable, mais vrai. Ça, 41 ans. Donc Lynn Seven qui avait pris sa retraite à cause de ses genoux multi-blessés, bon, comme beaucoup de skieurs a priori. Hein. Clément Noël, il ne s'est pas encore fait de genoux. Il a cette chance. Non, mais c'est vrai, tous les skieurs. Alexis Pinturault il y a longtemps dit ouais, vous voyez, moi je ne me suis jamais blessé, j'ai eu cette chance. Puis ben voilà, c'est tombé l'année dernière. Ah, plus de 30 ans. Mais voilà, donc Lynn Seven qui a dû arrêter, pas par manque d'envie ou par manque de talent, parce que bon, Lynn Seven, c'est avant Schifrin, c'était la recordman absolue de victoire, l'américaine, mais parce que ben, ses genoux ne pouvaient plus. Et après 7 ans de retraite et des genoux tout neufs, puisqu'elle a des prothèses. Elle est revenue l'année dernière pour les JO cette année. Et là, 7 ans après, victoire de Lynn Seven à 41 ans. Elle aura 42 ans au moment des Jeux Olympiques. Les légendes ne meurent jamais.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est un bel exploit. C'est...
Martin Fourcade revient. Alors, c'est pas pareil, parce que c'est un sport d'endurance. Donc voilà. Mais bon. Parce que Martin Fourcade avait arrêté à 31 ou 32. Je veux dire, il était pareil. Il a pas fait une Björn Dahlen, quoi. Il a pas arrêté à 44. Mais ce que
Jason
je veux dire.
Jason Lavichapi revient.
Mais mais super Lynn Seven. Et donc, le lendemain, Super G. Lynn Seven, quatrième. Cette fois. Derrière qui? Derrière Romane Miradoli, la française troisième, et d'ailleurs Laura Gaucher cinquième.
Ah oui,
donc
ça, ce que
3 et 5 les françaises. C'est bien parce qu'en descente c'est très très dur pour elle. Hein, aucune dans le top 10. Enfin, Miradoli a fait sixième, mais je veux dire au général ils sont loin. Et en Super G, petite accalmie, petite éclaircie. Donc c'est cool, ça fait plaisir parce qu'on sait que le ski féminin souffre depuis la retraite de Tessa Worley, qui était un peu la seule qui faisait des podiums, on va dire. Hein. Et donc on a également eu Clara Direz le week-end précédent, qui avait fait un top 5 en géant. Cinquième, je crois, aux États-Unis. À Tremblant, au Canada, au Québec, elle a fait cinquième. Et là, troisième et cinquième. Donc, c'est bien, à quelques semaines des JO, le ski féminin, alors c'est pas encore le niveau du ski masculin, mais ça revient.
Ouais, c'est pas mal.
Ça fait plaisir.
Il y a des bons espoirs de.
Peut-être pas de médailles, mais au moins des. On va dire des chances.
Voilà,
tu arrives à la course en te disant peut-être c'est possible,
c'est
pas
ça,
en mode tu vois, pas je sais pas, en mode quand tu regardes je suis désolé pour les fans de ce sport et je vais pas clouer leurs ambitions, mais a priori quand tu vas regarder la France au hockey, tu te diras qu'ils partent pas pour faire une médaille.
Ouais, c'est ça. Mais pour tu disais pour les je perds le terme, ça y est, quand tu dis une chance de médaille, donc t'as envie de regarder, bah c'est pareil pour le saut ski du coup.
Oui, voilà
c'est exactement ça.
Puisqu'en saut ski pareil, Valentin Foubert ce week-end, le français quatrième, il avait déjà fait un top 5 il y a quelques semaines, et puis là, il est toujours dans les 10, quoi. Je crois qu'il est 12e du classement général.
Donc c'est pas mal.
Et surtout qu'un sport comme le saut à ski, en Coupe du Monde, tu as 5-6 Allemands, 5-6 Autrichiens, 5-6 Japonais, 5-6 Norvégiens, 5-6 Slovènes. Au JO, t'en as 2-3.
Ouais,
c'est un peu comme le ski de fond.
Ça traduit là-bas.
Parce qu'en ski de fond, on en parlera tout à l'heure, chez les garçons. Tu te dis, oh, les Français, 8, 9, 10, c'est pas ouf, ouais, mais derrière 8 Norvégiens, les JO, ils sont que 3.
Ah bah oui,
donc, il y en a qu'un à battre pour faire médaille. Alors qu'en Coupe du Monde, il faut en battre 5.
C'est exactement ça.
Donc, donc, c'est pour ça, c'est toujours à relativiser les. Mais d'ailleurs, c'est pareil en biathlon, il y en aura que 4 en biathlon. Sauf qu'en biathlon, on le dit moins parce que c'est à nous que ça porte préjudice. mais voilà, dans certains sports, on est content. Avant de parler donc, du biathlon, du ski de fond, tout ça, donc le ski alpin homme, il y avait donc le Val d'Isère ce week-end, donc l'étape française, donc le géant. Samedi, le slalom dimanche. Bon, en géant, pas d'exploit, des résultats corrects pour Pinturault, tout ça, en gnomon. Mais en slalom surtout, puisqu'on cartonne, hein, puisqu'on a notre Clément Noël, on va même pas dire national, on va dire régional. Notre Clément Noël régional, et puisqu'il est vosgien, il habite dans les Alpes hein, depuis longtemps, mais à la base, il est de Ventron.
D'ailleurs, ça me frustre à chaque fois, il dit le skieur de Val d'Isère.
Alors, il dit le vosgien.
Oui.
Il dit le vosgien, alors c'est vrai, il dit, parce que techniquement, il est licencié à Val d'Isère, mais c'est vrai qu'il dit, alors c'est vrai que c'est marrant, parce qu'il dit le vosgien de Val d'Isère. Alors, on peut être un peu perdu. c'est sûr que, en biathlon ou en ski de fond, comme ils sont vosgiens et qu'ils sont restés licenciés dans les Vosges, ça pose pas de problème.
Ouais, c'est vrai.
Alors, tu dis à Delphine Claudel, la vosgienne de la Bresse. Mais c'est vrai que Clément Noël, c'est le vosgien de Val d'Isère. Bon, après, il habite à Val d'Isère depuis qu'il est ado, hein. Il est licencié là-bas depuis toujours, mais il dit toujours le Vosgien. Et d'ailleurs, parce que tu parles de Eurosport, hein, du coup, si je...
C'était l'équipe, moi.
Ah oui, oui, ah oui, parce que c'était en clair.
Sur l'équipe.
Mais sur Eurosport, il a dit, ça m'a fait, il a dit le Vosgien de Val d'Isère, il a dit du club de Ventron. Donc en plus, il a dit la bonne prononciation.
Attends, tu vois que t'en dis sur l'équipe, ils ont dit le skieur de Val d'Isère, tu vois, il n'y a même pas eu de...
Ah non, ils ont dit...
Bon, c'est un détail, mais ça frustre.
Ouais, ouais. Après, sur l'équipe, ils sont peut-être moins experts, peut-être.
Peut-être. Enfin, après, j'étais chez mon père quand j'ai regardé la course. Et d'ailleurs, quand j'ai regardé le passage de Clément Noël, je dis, ah, il a fait le plus dur, là où tout le monde s'était raté un petit peu dans le passage.
Alors, le problème de Clément Noël, et je le dis avec plein d'amour, parce que j'adore Clément, c'est qu'avec lui, c'est un peu soit la gagne, soit la sortie. Enfin,
c'est
et
ça,
en fait, il sait
c'est
pas. Ça. Clément Noël, tu regardes ses classements, il est jamais 10e ou 12e. Il est soit podium, soit DNF.
C'est ça. Ça frustre. Ça frustre.
Mais je pense qu'il l'a dit lui-même. Il l'a déjà expliqué, hein, parce qu'on l'a déjà posé la question. En fait, il a dit, si je skie à l'économie, je suis là. En fait, je suis à 3 secondes. C'est-à-dire qu'il sait pas.
Ouais,
il sait
pas. Doser, ouais.
Il sait pas. Voilà. Et en fait, c'est, il attaque parce qu'il sait faire que ça.
Ouais.
Et ça lui a donné tellement de succès. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, c'est paradoxal quand tu vois un talent pareil que le gars, il a jamais gagné les globes.
Bah, c'est ça.
Parce que c'est en intrinsèquement depuis 5-6 ans le meilleur slalomeur du monde, mais en fait comme un slalom sur deux entre guillemets il sort, bah il aura jamais peut-être le globe, mais quand il est en bas il est souvent très bien, parce que là parce qu'en gros, hein, pour revenir chers auditeurs, Paco Rasa qui avant ce slalom était maillot rouge puisqu'il y avait eu que deux slaloms, il avait gagné un des deux. Paco Rasa qui est un jeune français, pas vosgien lui mais français quand même, qui était sorti en première manche. Clément Noël avait fait 8e pardon de la première manche, qui à l'échelle de Clément Noël est pas réussi, mais c'était pas non plus cata, je veux dire, c'était pas perdu. Et à son deuxième passage, il était full attaque, et vu les temps intermédiaires, vu l'avance qu'il avait au moment où il sort, parce qu'il sort vraiment, comme tu l'as dit, tout près de l'arrivée, il aurait, selon toute vraisemblance, c'était quatrième au pire, hein, parce que il avait, je crois, 7 ou 8 dixièmes d'avance sur Vinadzer, qui finit quatrième derrière les tours du podium. Donc, il aurait été, en étant pessimiste, quatrième, et peut-être podium. Donc, il était vraiment parti pour ce fameux que j'ai jamais appelé avec lui, podium ou sortie, et bon bah c'est sorti.
J'étais frustré, franchement. J'ai...
Après, si on enlève ça, Steven Amier top 10, et puis les deux jeunes, qui Holnett et Degrip, qui font 11 et 12, notamment Auguste Holnett, qui finit 11e, en ayant le Dossard 68.
Okay.
Il partait dans les... bon déjà, c'est le Dossard le plus haut à s'être qualifié en deuxième manche. Ce qu'on rappelle, hein, les 30 premiers sont qualifiés en deuxième manche, et il va faire 11e, donc en slalom, contrairement là pour le coup chez les garçons à la descente ou au super G, où bah, on a l'impression que sans Cyprien Sarrazin qui s'est lourdement craché l'année dernière et qui est forfait pour toute la saison, c'est un peu le désert, c'est-à-dire que là pour le coup, médaille, ça, à l'heure actuelle, ça paraît miraculeux, ça paraît utopique.
Ouais.
En slalom et en géant, on a pas le meilleur, on n'a pas quelqu'un qui ressort du lot, mais on a une grosse densité. Quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. T'as raison.
Et au JO, c'est 4 en ski alpin. 4 par course, par pays. Donc,
c'est Hogan hein, qui gagne le slalom.
Hogan, oui.
Ah, parce que tu veux que je t'avoue, après le passage de Clément Noël, j'étais tellement énervé que j'ai arrêté de regarder.
Ah, non, c'est Hogan. Bah, moi, j'ai. Ouais. Hogan, ouais, c'est Hogan qui gagne devant Meillard.
Ouais, qui était premier d'après la première manche, je crois.
Norvège, Suisse, Norvège. Ouais, c'est ça.
Ok. Bon,
ouais, si tu veux tout savoir, ma copine qui était à côté de moi à la télé, elle a dit, il est où Pumba ? J'ai pas compris tout de suite la blague. Et en fait, c'est Timon Hogan, Timon et Pumba, référence au Roi Lion. Voilà,
okay.
À Kuna Matata, tout ça. Voilà, j'ai pas compris la blague tout de suite, mais c'est vrai qu'après tout, quelqu'un s'appelle Timon, c'est assez rare. Mais bon,
ouais,
voilà.
C'est vrai.
Il est où Pumba ? Bon, bah écoute, c'est son coach, je sais pas. Mais voilà, bravo à Timon, on dit Timon, Timon Hogan. Mais comme quoi, les Norvégiens ne gagnent pas qu'en ski nordique, ils gagnent aussi en ski alpin.
Ça, c'est vrai.
Voilà. On a fait le tour en ski alpin. Passons aux bonnes nouvelles.
Oui.
Avant de parler, parce que je veux finir l'émission sur notre Vosgienne, mais avant de parler du ski de fond, le biathlon, parce que ça y est, le biathlon bat son plein. D'ailleurs, tu vas peut-être m'en redire un mot, mais tu vas au Grand Beau là.
Ouais, je pars vendredi soir. Ouais.
Tu fais samedi-dimanche.
Samedi-dimanche, poursuite ma start.
Poursuite ma start.
Ouais. Ça va être
les
génial. Bon, par contre, il n'y a pas trop de neige, je crois, en ce moment.
Ah.
Bon, d'un côté, j'ai envie de te dire c'est mieux pour moi, parce qu'on va pas avoir trop froid comme ça sur le bord des pistes, mais avec un peu de neige, ça serait quand même sympa.
C'est toujours plus alpin, on va dire.
Ouais, c'est ça.
Nordique. Mais donc le week-end dernier, on était un peu revenu dessus. On n'était pas revenu dessus puisqu'il n'y avait plus d'émissions.
Ouais.
Mais parce qu'il y avait eu les relais, mais il n'y avait pas eu les premières courses individuelles. Un premier week-end qui avait démarré correctement et qui s'était bien fini, notamment pour les garçons, avec la victoire de Quentin Fillon-Maillet. D'ailleurs, on se disait pas parce qu'on n'a pas l'émission, mais en tout cas on disait dans le monde du biathlon que ouais, voir Quentin Fillon-Maillet qui est plutôt un diesel en forme aussitôt, c'était plutôt rassurant, puisque la dernière fois qu'il avait démarré avec un podium aussi rapide, c'était lors de sa fameuse saison olympique où il fait 4 médailles aux JO et puis gros globe. Hein, donc voilà.
Ouais,
et ce week-end, pareil, Eric Perrault qui va gagner la poursuite chez les garçons après une deuxième place sur sprint. Et chez les filles, un peu l'inverse. Lou Jean Monod, qu'on pensait, après son premier week-end, qui était pas mauvais, hein, elle était dans le top 5 général. Hein, on va dire moyen à l'échelle de Lou Jean Monod, c'est-à-dire excellent pour l'échelle de tout le monde, mais moyen à son échelle à elle, en tout cas de la Lou depuis 2 ans. Et qui avait gagné le sprint et qui n'a fini que 7e de la poursuite, c'est Justine Brézard hein, d'ailleurs qui a fini meilleure française de la poursuite, 4e. Avant de parler de cette fameuse du Grand Bornand, de cette fameuse peut-être ou pas sélection de notre Vosgien, un mot sur ce week-end, enfin même le début de saison globale chez les garçons et chez les filles de l'équipe de France de biathlon ou pourquoi pas même de biathlon en général, ton avis.
Ouais, bah tu parles, on avait parlé de Quentin qui, tu vois, il a fait l'inverse de ce que j'avais dit, qui était pas trop régulier, mais il va te chercher une victoire à Östersund. Puis après, bon bah voilà, hein, s'il arrive à passer les couchers, ça peut être un adversaire redoutable.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, il était un peu moins bien sur les skis ce week-end, c'est entre guillemets moins inquiétant que l'année dernière où tu sentais qu'il n'y avait pas un coucher qui passait. Quoi.
Ouais, ouais.
Dernière, je me suis dit, il n'y a pas eu une course où il est sorti à 10 sur 10 sur les couchers. Quoi.
Ouais.
Et s'il y en a eu une d'ailleurs, ça devait être en fin de saison et c'est celle qui gagne ou qui fait podium. C'est-à-dire la seule où c'est arrivé. Enfin, en fait, t'as l'impression qu'en effet, j'ai l'impression que pendant ces 1 an et demi, 2 ans là où ça a été, parce qu'avant c'était pas dur pour lui sur les couchers, pas particulièrement, ça a été tellement dur sur lui pour les couchers qu'il est devenu indestructible au debout. J'ai l'impression qu'il s'est forcé à comprendre et qu'en fait maintenant, t'as l'impression que s'il passe les couchers, c'est l'assurance d'un bon résultat parce qu'en fait, il a tellement dû par obligation bétonner ses debouts parce que le coucher passait pas que t'as l'impression qu'il est indestructible au debout.
Je sais pas ce que t'en penses. Tu vois, t'as bien fait de reparler du debout parce que ça, j'avais oublié ce moment-là. En fait, quand ils arrivent dans le dernier tir où ils sont tous debout, je crois qu'ils sont 5 à jouer la victoire quand ils étaient au stand.
Les garçons.
Ouais, les garçons là. La victoire de Quentin là. Tu te dis Quentin, il arrive. Et c'est lui qui met un impact psychologique sur les autres. Ils font tous une faute sauf lui.
Aïe.
Et tu retrouves, j'avais l'impression de revenir 4 ans en arrière, quoi. Mais c'est fou. Hein. Après, Eric, il monte en puissance. Après, Östersund, il était moins bien. Je crois qu'il était un peu malade, il me semble.
Ouais, ça.
Donc, ça reste convenable.
De toute façon, comme on disait à la première mission, ça risque d'être lui et Lagrade, deux principaux prétendants en général.
Un qui me fait forte impression sur les skis, j'en ai parlé d'ailleurs, parce que le prof de sport, parce que je travaille dans un collège, le prof de sport qui bosse avec moi, il travaille pour Rossignol, donc il était hors field zone ce week-end. C'est Emilien Jacquelin, qui, a priori, sur les skis, j'ai pas tous les chronos, mais il a fait un énorme temps de ski, je crois. Je sais pas si tu me confirmer.
Emilien Jacquelin ?
Ouais.
Il a le meilleur temps de ski du sprint et sur la poursuite pas mal aussi.
Donc voilà, lui.
Non mais Jacquelin, de toute façon Jacquelin c'est toujours la même chose. Parce que alors Jacquelin il y a deux choses. Il y a si ça passe au tir, puis il y a aussi si ça passe à ski parce que des fois il part trop vite et il explose.
Ouais.
Moi j'étais au Mondiaux l'année dernière, à Alone the Ride. Sur la Mastart, il part comme une balle. C'est le seul à suivre Johannes Bö qui faisait sa dernière course en carrière.
Ouais.
Et il finit la course détruit. Il finit 25e, il n'avançait plus. Mais là, si ça tient tout le long, en sachant que c'est vraiment la poursuite de sa course, parce que au-delà du fait que c'est sur cette course qu'il a 2 titres de champion du monde, c'est pas pour rien. La poursuite, c'est la course de toutes les courses du biathlon, hors relais, qui est la plus courte en ratio, puisque en sprint. Pour être totalement factuel, hein. En sprint, il y a 10 km seulement, mais il n'y a que 2 tirs. Donc les tours font 3,3 km.
Ouais.
En poursuite, c'est 12,5 km, mais il y a 5 tours, puisqu'il y a 4 tirs. Donc les tours ne font que 2,5
km. C'est ça.
En mass start, les tours font 3 km.
Ouais, ils sont plus longs.
3 km, puisque c'est 3x5, oui. Donc plus long que mais plus court.
Bah,
mais plus court que le sprint. Et sur l'individuel, bon, là, c'est des cours de 4 km. Mais c'est vraiment sur la poursuite. Et c'est la course qui lui correspond. Bon là, malheureusement, il était bien parti, il a tiré des balles dehors. Bon, Fabien, c'est pareil. Hein. Fabien, c'est l'inverse de Quentin. Ça passe le coucher, mais le debout, ça passe pas. À notre Vosgien. Mais bon, l'enseignement quand même dans tous les cas de ce week-end chez les garçons, c'est que les quatre leaders sont une galaxie au-dessus de tous les autres et que a priori, sauf maladie, sauf catastrophe, sauf blessure. C'est les 4 qui partent au JO, puisqu'on rappelle qu'au JO, c'est pas 6 places, comme en Coupe du Monde, c'est 4. Donc, que ce soit pour le relais ou pour les courses, c'est les 4 là. Enfin,
je vois personne d'autre. Quoi.
Il y aura peut-être du voilà. Et chez les filles, et ça va me permettre de faire une transition. Est-ce que t'as vu les sélections pour le Grand Bornand?
Ah, bah non, justement, je l'ai cherché aujourd'hui.
J'ai les sélections là.
Ouais.
Chez les garçons, donc, le Vosgien Valentin Lejeune va en Coupe du Monde. Remplace Emilien Claude, donc un Vosgien pour un Vosgien.
Okay.
Donc ça sera donc les 5, Claude, Fillon-Maillet, Jacquelin, Lombardo, Perrault, puisqu'on rappelle qu'Oscar Lombardo qui avait démarré en IBU Cup a remplacé Antonin Guigonna ce week-end, et là, Emilien Claude qui aurait déjà pu être remplacé hein, par Valentin Lejeune, il lui avait laissé une deuxième chance parce qu'il était malade, il n'avait pas couru, mais là, bon bah, il a pas fait la... Malheureusement, là, j'adore Emilien, c'est un Vosgien, mais malheureusement, c'est logique, enfin je veux dire, je peux pas revendiquer que Paula Botet monte et dire que Emilien Claude ne doivent pas descendre, malheureusement. Et donc, il est remplacé par Vauvien Valentin Lejeune. Et chez les filles, Paula Botet sera au Cambrandant.
Ah, c'est bien ça. Alors, du coup, la place de qui?
Alors, du coup, sprint, poursuite, Paula Botet, Camille Benet, Justine Brezaz-Boucher, Lou Jean Monod, Océane Michon, Julia Simon. Jeanne Richard fera uniquement la Mastart si elle reste dans les 25. Puisqu'elle est 16e du général. En fait, ils vont faire comme les Norvégiens l'année dernière. Les Norvégiens qui, l'année dernière, à Tarjei-Bø, qui était pareil autour du top 15, n'avaient pas fait sprint poursuite pour essayer de qualifier 7 Norvégiens à la Mastart. Ils avaient réussi. Et donc là, ils se sont dit, Jeanne Richard est trop loin pour jouer le général, puisqu'en fait, à date, Lou Jean Monod joue le général. Tu ne peux pas te permettre de la faire tourner.
Ouais.
Camille Benet est 5e, donc pareil, elle joue général, tu peux pas la permettre de faire tourner. Justine Brezza, ça reste Justine Brezza, c'est une tête d'affiche, tu l'as
c'est
pas.
Ça.
Et puis Julia Simon, elle a besoin de course pour
retrouver.
Et Océane Michelon, Océane Michelon est 8e, donc elle a fait un podium. Et en fait, elles ont toutes. Bon, si t'enlèves Julia Simon, qui est revenue ce week-end, qui a à part, Justine a fait 4e ce week-end, et les autres ont fait soit des victoires, comme Lou, soit des podiums pour Jeanne Richard est 16e général, donc ils se disent Paula Botet, donc est Bressaude, qui a fait 4 victoires en 6 courses en IBU Cup, et les 2 courses qu'elle n'a pas gagnées, elle fait podium.
Ouais, elle est impressionnante.
Donc, fera le sprint, et donc on lui souhaite la poursuite. Mais Jeanne Richard n'est pas écartée pour autant, elle reste dans le groupe du monde, et en espérant, puisque donc on rappelle qu'à la Mastart, c'est les 25 premières du général plus les 5 meilleurs de la semaine, donc dans leur monde idéal, c'est que Paula soit dans les 5 meilleurs de la semaine, ou même, comme c'est la première Mastart qui n'a pas encore trop de points. Tu fais 2 perfs de fou, t'es même dans les 25 du général direct.
Oui.
Hein. Et que Jeanne Richard, qui est actuellement 16e, reste dans les 25. J'ai vu, elle a 60 points d'avance sur la 25e. Ça peut paraître, probable qu'il n'y en ait pas 10, puisque donc, pour passer de 16 à 26, qu'il n'y en ait pas 10 qui prennent 60 points ou plus.
Ouais.
Donc, pour moi, et je dis pas ça parce que Paula Botet est vosgienne, le staff féminin, a beaucoup dit les années précédentes. Et en ce début de saison, que ça se joue au mérite, et ça s'est pas toujours retranscrit dans les faits. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire.
Oui.
Et il est vrai, je dois l'admettre, que depuis l'année dernière, c'est mieux à ce niveau parce que Sophie Chauveau, qui avait fait des podiums en Coupe du Monde, et ils ont eu le cran quand ça allait mal de l'enlever et de faire monter Paula, qui a d'ailleurs gagné quand elle monte. Paula, qui, faut le dire aussi, a été moins forte en fin de saison, qui n'est pas partie cette année en début de saison. Mais là, voilà, ils ont. Elle performe, elle cartonne même, et elle revient. Et moi, j'avais peur parce que en fait, tu peux te dire, le groupe est tellement dense que en fait, tu loupes les sélections en début d'année, c'est un coup à ne pas te voir de la saison.
Ouais.
Et tu vois, Camille Benet, elle a gagné sa place en sélection et elle a gagné sa place après en Coupe du Monde. Je suis désolé, mais Jeanne Richard, elle fait 2 étapes complètes, indépendamment du fait qu'elle a eu du mal en relais, mais je parle en individuel. Au-delà de sa place au général, parce que l'année dernière, elle fait top 5 du général. Océane Michelon fait 4e et Jeanne fait 5. Individuellement, elle n'a pas de top 10 encore. Donc, et il y a eu 5 courses. Il y a eu un individuel, un sprint, une poursuite à Östersund et un sprint, une poursuite à Orfizen. Il y a eu 5 courses. Donc, ce n'est pas illogique. Ce n'est pas illogique sportivement, comme d'ailleurs Valentin Lejeune qui a enchaîné. Il n'a pas gagné en IBU Cup, mais je crois qu'il a 4 deuxièmes places de suite. Que ce soit derrière Lombardo, derrière Dalleux ou derrière Guigona. Mais alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a enfin. Alors, du réservoir chez les filles, on est habitué, mais aussi chez les garçons.
Oui, chez les garçons.
Alors, bon, ça joue aussi parce que du coup, tous les Norvégiens qui étaient en IBU Cup, les Sorum, les Botten, les Uldal, les Bakken, maintenant qu'il n'y a plus les frères Bø et d'autres,
ils sont
en Coupe du Monde.
Ouais.
Donc, c'est plus simple, mais quand même, on est là.
Oui, c'est vrai. Ouais. En plus, ils sortent d'une bonne perf ce week-end. Donc, je suis content pour Valentin Lejeune, tu vois.
Et ben voilà, t'auras Valentin Lejeune et Paula Botet.
Ouais.
Alors, s'ils passent le sprint. On leur souhaite quand même d'être dans les 60.
J'espère parce que moi, du coup, je les vois que la poursuite.
Mais mais franchement, je suis content. Et donc, 4 Vosgiens dans 3, puisqu'il n'y a plus Émilien Claude.
Fabien,
Valentin et Paula.
Ouais.
Puisqu'il n'y a plus Amandine, donc là, pour le coup, logique. Et puisqu'il y a MML, elle est là. Et d'ailleurs, Amandine Mangin, heureusement, entre guillemets, que Jeanne Richard ne redescend pas en IBU Cup, parce qu'il y aurait eu le même phénomène de levier en IBU Cup. Entre Galmas Paulin, entre Gillon Guigona, Sophie Chauveau, et Fanny Bertrand qui performe aussi, en fait, si quelqu'un était à redescendre, c'était limite Amandine Mange, alors qu'elle venait de la Coupe du Monde.
Donc
le fait que Jeanne reste, entre guillemets, en réserve de la République. Et puis j'ai vu aussi que peut-être, comme c'est une saison olympique, c'est une saison un peu particulière, dans les étapes de janvier, il n'était pas exclu. J'ai vu que, certes, alors pas Lou. Évidemment, pas Lou, puisque Lou va jouer le général, mais qu'une Camille Benet, ou si elle a besoin de repos, ou une Justine, ou une Julia, si elles estiment que le général c'est mort et qu'elle focus JO, ce qui est probable, que donc elle fasse une impasse, et que donc, en fait, potentiellement, quel que soit indépendamment des résultats d'Océane Michelon, auquel je pense à gagner sa place de toute façon, mais on va dire de Jeanne et de Paula, qu'en fait, si une Julia ou une Justine ou une Camille, alors Camille pour repos ou Julia et Justine pour Focus JO, font une impasse, qu'en fait, il n'y ait personne à redescendre. Tu vois, ça permettrait aussi, que, en fait, Paula et Jeanne puissent faire les Coupes du Monde de janvier, parce que de toute façon, elles ne feront pas les JO a priori, il n'y a que 4 places. Donc là, bon, ça semble clair. Hein.
Ça va être dur.
Enfin, que 4 places, je dis, ça semble clair. Pour moi, elles sont même 5 là, à l'heure actuelle. Bon. Peut-être même 6 si Paula cartonne, ou même 7 si Jeanne revient au niveau l'année dernière. Mais bon, enfin, ça va être dur de faire. Parce qu'en fait, au JO, là où c'est compliqué, c'est que c'est plus compliqué que juste 4 places. Parce qu'en fait, là où c'est compliqué, c'est qu'en Coupe du Monde. D'ailleurs, on le voit avec notre, entre guillemets, pas magouille, parce que c'est dans les règles, mais on a 6 places à la course, mais finalement, à la Masters, on sera peut-être 7.
Ouais.
Mais au JO, c'est 4 places, non seulement par course, mais 4 places nominatives. C'est-à-dire que pour ne pas respecter un certain nombre d'athlètes, c'est-à-dire qu'en fait, les 4 que tu prends au JO font le relais, font les courses. Tu ne peux, peux pas dire, on en met 4 sur l'individuel et 4 d'autres sur le sprint et la poursuite. C'est les mêmes. Donc, alors, sauf cas médical, sauf blessure, le médecin du CIO, machin. Mais donc, voilà. Chez les garçons, la donne est claire. Chez les filles, ça va être dur.
Très très dur. Je me rappelle à la place des sélectionneurs.
Bon, je loue Jean Monod assuré, je pense.
Ouais, loue.
Et bon, après, il y a du pour, du contre dans tout. Je pense que Céane Michon y sera. Si Camille Benet n'explose pas physiquement, ce qui n'est pas impossible, hein, c'est sa première saison complète, elle peut totalement exploser en janvier.
Ouais.
Donc, si elle explose, elle ne fera peut-être pas les JO. Puis elle se reposera pendant le mois de février, puis elle fera la fin de saison en Coupe du Monde. Puis après, Julia, si elle revient au niveau, il sera. Justine, je pense quand même qu'elle y sera, parce que voilà. Mais après, on verra.
Justine, on le sait, hein, c'est un peu comme une Clément Noël, c'est ça passe ou ça casse.
C'est des problèmes de riches.
C'est ça.
En fait, le problème, c'est qu'au JO, contrairement à la Coupe du Monde, où en fait, entre guillemets, la Coupe du Monde, c'est un peu prime à la régularité, au JO, c'est la médaille ou rien. Donc tu vas avoir tendance, si tu es le staff, à prendre l'athlète qui peut gagner. Quitte à, enfin, entre guillemets, c'est un peu cruel ce que je veux dire, mais quelqu'un qui sera toujours top 10 mais qui est à son plafond de verre, au JO, au Coupe du Monde, ça peut être intéressant. Au JO, ça l'est moins.
Oui.
Donc autant prendre quelqu'un qui a le potentiel de faire médaille, quitte à ce que Fifi soit centième, entre guillemets, ça change rien.
Ouais, c'est vrai.
Bon, on verra. Mais il nous reste 10 minutes et je veux parler du ski de fond. Pour une double raison. D'ailleurs, pour une première raison qui est qu'on a une victoire française en ski de fond. Ce qui n'est pas arrivé la saison dernière, puisqu'il y a eu multitude de podiums en sprint et en distance, mais qu'on n'avait pas eu de victoire et que là, Monsieur Johannes Klebo, qui ne sort. J'ai regardé le sprint. Enfin, j'ai regardé les courses les sprints les samedis et les courses individuelles le dimanche. J'ai regardé le sprint samedi. Donc, chers auditeurs, si vous ne savez pas, Johannes Klebo, c'est un peu le Terminator, je ne sais pas comment dire, du ski de fond.
Le mastodonte.
Donc, il gagne tout en ski de fond, mais particulièrement en sprint. Oui. À tel point que. Alors, sprint, vous savez, donc il y a une qualif, tu prends les 30 premiers, puis après, tu as des quarts de finale, des demi-finales. C'est un système d'élimination directe, c'est un système assez dynamique, assez sympa, pour le coup, qui est assez. Là où le ski de fond, ça paraît un peu vieillot. Pour le coup, le sprint, c'est une discipline assez moderne, assez télégénique, ouais, sympa à suivre. Et en plus, là, c'est du style libre, donc ce qu'on retrouve en biathlon, donc peut-être encore plus sympa à suivre que le classique, même si pour le coup, un sprint en classique, c'est sympa aussi parce que c'est dynamique. Peut-être plus qu'un 50 km, pour le coup, ça fait un peu comme le marathon, quoi, poursuivre, ou un 50 km marche en athlétisme, quoi, c'est bien, et bon, poursuivre tout, faut être passionné,
faut
quoi.
Aimer, quoi.
Voilà, faut être passionné. Donc Lucas Chanava, Johannes Klebo, donc le monstre qui est donc tombé en quart de finale et qui est éliminé. Et donc, statistique invraisemblable, il n'avait jamais de sa carrière, jamais été éliminé en quart de finale. Et il n'avait été une seule fois pas en finale. Et après, je crois que quand il est en finale, c'est à 90% des podiums, et sur les podiums, sur les 90% de podiums, c'est 9 fois sur 10 la victoire. Enfin voilà, c'est des stats de zinzin. Et là, pour la première fois de sa carrière, pas de quart de finale, ça profite à qui ? C'était le jour ou jamais, et Cocorico, c'est notre Français Lucas Chanava qui gagne à la photo finish en plus devant l'un Italien, Pellegrino. Donc victoire française en ski de fond, ça fait plaisir.
Ouais, ça fait plaisir. Toi aussi, ça peut être une chance de.
Et ça aiguise les appétits. Bah oui, alors bon, il y aura Klebo au JO, il va pas tomber chaque week-end. mais derrière, il y a pour le coup, là où en distance, c'est-à-dire les courses.
Ouais, c'est plus compliqué.
Là où en distance, vraiment, les Norvégiens sont vraiment au-dessus du lot de manière endémique, globale. En sprint, il y a Klebo et les autres, donc les Français.
Ouais.
Parce qu'on parle de Chanava, mais. Chapaz a fait une quatrième place en début de saison, et Richard Joux, en effet, est là aussi. Donc, on a. Et puis en plus, il y a un team sprint aussi au JO, donc il y a des vraies chances de médaille. Et donc, il est temps pour ces 7 dernières émissions d'y arriver. Il y avait aussi les courses de distance le dimanche. Chez les garçons, de belles perfs. Mathis Desloges et Hugo Lapalu font top 10, mais bon, il y avait 8 Norvégiens, donc au JO, il n'y en aura que 3. Hein. Donc ouais. Quand tu fais 9 et 10 derrière 8 Norvégiens, a priori, tu fais le calcul, au JO, t'es 4 et 5. Alors, c'est pas encore les médailles, mais c'est le meilleur des autres. Et puis, c'est bonne augure pour le relais.
Oui.
Aussi. Et chez les filles, au rayon des mauvaises nouvelles, Delphine Claudel, qui, oui. Notre Vosgienne qui était blessée toute la saison dernière, qui revenait en début de saison, qui avait fait un bon premier week-end, hein, parce qu'elle avait fait une 13e place, et qui malheureusement, on n'a pas trop de communication sur ça, et a rechuté a priori de sa blessure, puisqu'elle vient de louper les deux week-ends. Donc ça, c'est, on espère que ça ira mieux, on espère quand même qu'elle sera remise pour les jours, parce que là, je le dis en mode on espère, parce qu'en fait, il n'y a pas de com. Donc l'année dernière, c'était un peu ça. Hein.
Je regarde un petit peu,
je me sens pas bien, je suis forfait pour cette étape. Bon, bah, finalement, je suis forfait pour cette étape. Et finalement, arrivé fin décembre, début janvier, je suis forfait pour la saison. Et là, j'ai un peu l'impression qu'elle était annoncée, elle a déclaré forfait au dernier moment en disant je reviendrai demain. Elle est pas revenue le lendemain. Finalement, elle n'a pas non plus fait le week-end ce week-end. C'est inquiétant, un peu parce que c'était une fracture de fatigue. Donc, c'est que les fractures de fatigue, tu vois, des fois ça vient, ça repart. C'est un peu comme dans un autre style en vélo, les tendinites. Ouais, c'est le genre de truc que tu peux traîner, que ça part jamais. Ou dans un tout autre style, les pubalgies. Tu vois, le genre de truc que tu traînes. Donc voilà, on espère, parce que bon, au-delà du fait qu'elle soit vosgienne, c'est notre meilleure fondeuse avec Flora Dolci qui, elle, pour le coup, la pauvre, je sais pas si t'es au courant, mais un accident de parapente cet été a failli mourir.
Ok.
Donc c'était les deux fers de lance, Delphine Claudel et Flora Dolci, les deux seuls au niveau mondial, jusqu'à ce week-end. qui a eu, bon, malheureusement, là, pour le coup, un accident de parapente qui a failli mourir et qui c'est déjà un miracle qu'elle remarche. Donc bon, là, il n'est même pas question de reparler pour l'instant de sport de haut niveau. Mais donc bon, bah là, si elle, qui a pris le relais, en fait, qui s'est révélée l'année dernière en l'absence de Delphine, plus Delphine sont pas là cet hiver, c'est vrai que pour le collectif féminin, ça va mal. Mais dans ce marasme, parce que c'est triste, une bonne nouvelle, une exceptionnelle nouvelle. Et là, pour le coup, elle nous fait doublement plaisir. Et particulièrement à toi, puisque d'après ce que j'ai compris, tu connais personnellement la personne, donc tu vas pouvoir m'en parler. Élève, ouais. Mais Léonie Perry, donc Vosgienne, Bressaude, qui ne faisait pas ses débuts en Coupe du Monde, qui a fait quelques courses l'année dernière, mais qui, on va dire, à 21 ans, je crois, donc qui est encore, entre guillemets, une débutante à ce niveau, hier, sur le 10 km skating de Davos en Suisse, va faire, tenez-vous bien, messieurs, dames, 6e. juste devant elle, il y a Jesse Diggins, l'américaine 5e. Ouais. Jesse Diggins, qui est juste, si vous ne suivez pas ce qu'ils font, triple tenant du titre du gros globe. Et Léonie Perry finit 6e à 15 secondes de la victoire. Pas parce que tu peux dire, ouais, bon, d'accord, elle est 6e, mais s'il est à 3 minutes, non, elle est à 15 secondes de la victoire et donc à 10 secondes du podium. C'est une performance, c'est même pas fantastique, c'est exceptionnel.
Je lui ai dit tout à l'heure, je parlais avec elle en arrivant avant d'arriver au studio et je lui ai dit c'est un truc de fou ce que t'as fait quoi.
Alors t'as regardé la course?
J'ai regardé que les highlights, j'ai pas regardé toute la course.
Je te l'avais dit, j'adore le ski de fond, donc pour le coup je regarde les courses parce qu'en plus c'est pas la même fédération, mais la fédération de l'IBU, la fédération de biathlon, fait bien en sorte que les courses de ski alpin, de ski de fond et de biathlon ne tombent pas aux mêmes heures. Je pense que t'as déjà fait gaffe, mais si tu regardes un week-end, en fait, c'est fait exprès pour que ça s'enchaîne. Et d'ailleurs, sur Eurosport qui diffuse tout, c'est vraiment fluide. Enfin, genre là, par exemple, si je prends, t'avais la première manche du slalom à 9h, ensuite t'avais la course de ski de fond, ensuite t'avais la course de biathlon à midi, ensuite t'avais la deuxième manche de slalom, ensuite t'avais la course de ski de fond de l'autre sexe, et ensuite t'avais la course de biathlon. C'est fluide, ça s'enchaîne. Ça... Et donc, si t'es passionné, les week-ends en hiver, tu peux tout enchaîner.
Ouais, tu restes chez toi.
Et puis, alors là, je te parle de ça, mais si vraiment t'es à fond, tu rajoutes le combiné nordique, le soit ski, le ski cross, le snowboard cross où on a aussi cartonné, enfin parce qu'on en a pas parlé, mais aussi deux victoires en snowboard cross, enfin, ouais. Enfin voilà, donc j'ai regardé cette course et donc Léonie Perry en fait partait en début, elle avait un petit dossard, la course c'est comme le sprint en biathlon, c'est un contre la montre et bon, temps de référence, les commentateurs, oui bon bah voilà, ok, temps de référence, mais bon voilà, elle devant une Australienne, c'est petit, puis tu vois les premières Norvégiennes commencent à partir, les premières Allemandes, les premières Suédoises, oh ben tiens, en première intermédiaire elles sont derrière Léonie, oh oui bon bah c'est le premier intermédiaire, 5 km, ouais, encore derrière Léonie, puis 7 km, oh là là, mais, et puis en fait, à l'arrivée, les premières cadors commencent à finir derrière, et là tu te dis, oh là là, et donc elle passe deuxième, mais en fait, au dossard 40, sur à peu près 60 dossards, elle était encore troisième, et là tu, puis c'est comme en biathlon, t'as les groupes, donc les 20 premières, ça va, et puis après, entre 30 et 50, 60, c'est les top athlètes, puis à la fin, c'est des moins bons, donc en fait, même si la course n'est pas finie, quand les top athlètes sont passés, tu sais, et puis en fait, bah, tu te rends compte que, elle fait cérémonie des fleurs, quoi, puisqu'elle est sixième.
Bah oui, sixième,
c'est dinguerie, quoi.
Ah ouais, c'est un truc de fou.
Et moi, devant ma télé, j'étais fou. Et encore une fois, ça peut paraître incongru parce que c'est pas le sport le plus médiatisé en France, surtout du ski de fond, surtout que c'était une course un contre-la-montre, quoi. Donc c'est peut-être moins électrique qu'une course en ligne comme une mass start ou une poursuite, mais voilà, incroyable. Et ça va être la fin de l'émission, malheureusement, donc on pourra pas plus en parler. Mais je pense que là, elle a gagné sa place en Coupe du Monde permanente et une place au JO. Et puis ben voilà, Vosgienne quoi.
Bah oui, non, c'est clair. Mais puis en plus, tu sais, au-delà du fait qu'elle fait 6ème, bah du coup, Léonie, je l'ai eu au collège et elle a toujours le smile. Franchement, tu vois,
bah
elle est toujours. Et enfin, ouais, c'est, ça fait super plaisir pour elle quoi. Et voilà, je sais pas, il n'y a pas d'autre mot. T'as envie de. En fait, tu vois, c'est le genre de fille, du coup, elle me donne envie de suivre le ski de fond du coup.
Ouais, puis moi aussi, j'espère que je donne envie de suivre le ski de fond.
Voilà, en parlant avec passion,
mais... non, parce qu'en plus, le ski de fond pour le coup, c'est un sport où, au-delà du fait qu'on arrive. Bon, alors, chez les filles, c'est plus dur. Quoi, sauf si Léonie devient top mondial. Mais chez les garçons, on peut faire des. Mais on peut faire... Et puis en plus, comme on est un peu moins dominant finalement qu'en biathlon, ça rend chaque perf, tu la savoures. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
tu kiffes vraiment. Et un peu comme nous, on est de la génération là, au Tour de France, on a tellement galéré, quand il y a une victoire française, on est content. Bah, tu vois, c'est un peu le même délire. Et du coup, ça décuple les émotions. Là où en biathlon, c'est pas que c'est devenu le quotidien, mais presque. Quoi. On est habitué.
Ouais.
Et voilà.
Non, franchement, pour terminer, chapeau Léonie, si tu m'entends.
Et bah écoute, on espère.
Voilà.
Et voilà. Et bah écoute, j'espère que t'as passé un bon moment.
Ah, j'espère que toi aussi.
Allez, on se retrouve à. C'est les vacances, Lac Donald qui arrive, mais on se retrouve début janvier sur Fadjet pour de nouveaux moments de sport. Allez, bisous, bye bye et bonne soirée sur Fadjet.